de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, Apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous. Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonjour chers auditeurs, vous écoutez maintenant les nouvelles d'aujourd'hui. On va parler de quelques événements importants. Par exemple, l'Indonésie demande l'aide des États-Unis, investissement des cultures vivrières dans le centre de Kalimantan et le relanchement du technoparc à Penajam Pasir du Nord. Chers auditeurs, voici les nouvelles incomplètes. Wiranto niait que l'Indonésie demande l'aide des États-Unis. Le ministre coordinateur des affaires politiques, juridiques et de sécurité Wiranto a nié que le gouvernement ait demandé l'aide des États-Unis dans le cas de la Papouasie et de la Papouasie occidentale. Selon lui, le conflit en Papouasie est une affaire interne de l'Indonésie. La Papouasie et la Papouasie occidentale sont inclus dans la partie légale de l'Est de l'Indonésie, comme d'autres régions. Wiranto a souligné que le gouvernement ne demanderait pas l'aide d'autres pays pour résoudre les conflits en Indonésie. Les Émirats arabes unis investiront des cultures vivrières dans le centre de Kalimantan. Les Émirats arabes unis EAU investiront dans le secteur du développement des cultures vivrières en exploitant les terrains de 100 000 hectares dans le Kalimantan central. Le gouvernement prévoit de préparer les terrains dans le cadre d'un programme de coopération. Le gouverneur de Kalimantan central, Sugianto Sabran, après avoir assisté à une réunion de coordination au bureau du ministère des affaires maritimes à Jakarta, mardi le 3 septembre, déclarait qu'en ce qui concerne les produits à développer, cela avait été choisi par les Émirats arabes unis. Selon lui, ces produits sont entre autres le maïs, le riz, le durian, le mangostin et le café. Pour l'Indonésie, les avantages à obtenir peuvent être sous forme d'impôts ou de redevances. BPPT veut relancer le technoparc à Penajam Pasir du Nord. Hamam Riza, chef de l'Agence d'évaluation et d'application des technologies, BPPT, a souhaité relancer le développement du technoparc maritime à Penajam Pasir du Nord, qui est un candidat à la nouvelle capitale indonésienne. Après le processus de construction s'est arrêté, il y a 4 ans. Cela a été dit à Hamam Riza après la cérémonie de clôture du jamboree des véhicules électriques à BPPT Jakarta mardi. Il a déclaré que le développement du technoparc maritime était important car un écosystème de la capitale devait avoir une région pour voir mettre en œuvre l'innovation technologique. Le technoparc de l'industrie maritime devrait permettre la croissance d'entreprises axées sur la technologie qui peuvent être les moteurs de la croissance économique. Il a ajouté que le technoparc devait certainement relier tous les composants de l'écosystème de l'innovation. Tanjung Balai exporte pour la première fois des produits de la mer vers Chine. La ville de Tanjung Balai, Sumatra du Nord, a effectué sa première exportation de certains produits de la mer d'un montant de 81 000 kg vers la Chine avec une valeur économique de 2,6 milliards de rupiahs lundi le 2 septembre. À la même occasion, le maire de Tanjung Balai, Mohamed Shahrial, a expliqué que les produits d'exportation maritime avaient contribué à l'économie de la population, en particulier à la population locale de Tanjung Balai, car ils peuvent absorber des main-d'œuvre et réduire le chômage. Le chef de la station de quarantaine de pêche de Tanjung Balai, Asahan Sondan Sitorus, comme cité par l'agence des nouvelles Antara, a expliqué qu'environ 75% des exportations de ce secteur maritime réalisées via le port de Blawan, compte tenu la capacité limitée du port de Teluk Nibu. Le président indonésien Joko Widodo a reçu lundi le chef du représentant de la Banque mondiale pour l'Indonésie, Rodrigo A. Chavez, au palais de l'État Jakarta. Ils ont discuté des conditions économiques mondiales actuelles. Après la réunion, Rodrigo A. Chavez a déclaré aux journalistes que le gouvernement indonésien devait continuer à surveiller la situation économique mondiale et à préparer des mesures anticipatives. Chavez a ajouté que la recommandation transmise au gouvernement de relancer l'économie était d'améliorer le déficit du compte courant en augmentant les investissements étrangers. Il a expliqué que le gouvernement devait fournir la crédibilité nécessaire pour les investisseurs étrangers. Selon Chavez, les règles doivent être claires, stables et respecter certains aspects de conformité contre les règles applicables. Le Forum mondial sur l'irrigation à Bali discute de l'infrastructure pour la sécurité alimentaire. Le troisième forum mondial sur l'irrigation à Bali discutait du développement des infrastructures et de l'amélioration de l'irrigation et du drainage dans le but d'augmenter la sécurité alimentaire mondiale. C'est ce qu'a déclaré Basuki Haji Muljono, ministre des Travaux publics et du logement PUPR, lundi lors de l'ouverture du troisième forum mondial de l'irrigation et de la 70e réunion internationale du conseil exécutif à Nusa Dua, Bali. Il espère que cette réunion des forums générera de nouvelles idées, apportera des solutions et stimulera l'action pour l'avenir afin que la disponibilité de l'eau et de la nourriture soit plus garantie. L'événement qui se déroulait du 1er au 7 septembre, étaient assistés environ 1400 participants de différents pays et de divers milieux. Serge Littard, c'était les nouvelles.
Angkasawan RRI sekali di udara.
Bonsoir, chers auditeurs. Voici le commentaire intitulé « Efforts déployés pour surmonter la crise à Hong Kong en raison du projet de loi sur l'extradition ». La situation critique à Hong Kong continue. Les communautés qui se sont opposées au projet de loi sur l'extradition en Chine continentale ont continué à manifester. La dirigeante de Hong Kong, Carrie Lam, était résolue à ne pas abroger le projet de loi sur l'extradition. Carrie Lam a également nié l'information qu'il a demandé à démissionner de son poste. Alors que les manifestants ont élargi l'action en perturbant les aéroports internationaux de Hong Kong. Le gouvernement de Hong Kong insiste sur la nécessité d'un projet de loi sur l'extradition. Le gouvernement de Hong Kong a déclaré que le projet de loi avait inclus des règles protégeant les droits des citoyens de Hong Kong. Selon les autorités de Hong Kong, le projet de loi a pour garantie de ne pas porter atteinte à la liberté spéciale dont jouissent les citoyens de Hong Kong. Au lieu de cela, les manifestants du projet de loi sur l'extradition vers la Chine continentale pensaient que celui-ci ferait en sorte que ceux qui étaient extradés seraient jugés par des règles juridiques inattendues. Il est intéressant d'observer le rejet du projet de loi sur l'extradition vers la Chine continentale, car Hong Kong a en réalité signé un traité d'extradition avec une vingtaine de pays. La communauté internationale attend toujours la fin de la crise à Hong Kong. Les faits montrent que la manifestation continue de se développer en impliquant des milliers d'élèves du secondaire. Des milliers d'étudiants ont boycotté les activités d'enseignement et d'apprentissage en se rendant sur le terrain pour participer à des activités de démonstration. Dans une telle situation, la patience du gouvernement chinois à Beijing continue d'être mise à l'épreuve. S'ils interviennent enfin en mobilisant leurs troupes pour vaincre les manifestants à Hong Kong, la situation à Hong Kong risque de devenir incertaine. L'existence de pourparlers et de négociations entre les autorités de Hong Kong et de rassemblements pourrait constituer la meilleure solution. Chers auditeurs, c'était le commentaire.
Chers auditeurs, voici l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement la fondation de Google le 4 septembre 1998. Google Inc. est une société multinationale américaine qui est engagée dans des services et des produits Internet. Ces produits comprennent la technologie de recherche, web informatique, logiciels et réseaux de publicité. Google a été fondée par Larry Page et Sergey Brin alors qu'ils étaient encore étudiants de troisième cycle à l'université de Stanford. Ils ont détient 16% des actions de la société. Ils font Google une société privée le 4 septembre 1998. La mission de l'entreprise est de recueillir des informations du monde et de les rendre accessibles et utiles à tout le monde. L'autre information est sur le président Sulaiman Yudono a lancé la Journée nationale de la clientèle le 4 septembre 2003. Chaque 4 septembre, l'Indonésie commémore la Journée nationale de la clientèle. L'idée d'une Journée nationale de la clientèle est déclenchée ou initiée par Handi Irawan en expert sur la satisfaction du client. Lorsque la Journée nationale de la clientèle a été initiée par Andy Irawan en 2003, beaucoup de gens ont soutenu cette idée. L'essence de la Journée nationale de la clientèle est de rappeler à chaque homme d'affaires de plus proche à ses clients afin de comprendre les besoins du client. Nous finissons l'histoire aujourd'hui avec l'événement. La conférence de Londres est désignée comme la Journée mondiale du hijab le 4 septembre 2004. L'histoire a émergé l'idée de hijab international au début de 2000. Le gouvernement britannique, précisément à Londres, a interdit aux étudiants ou à quiconque de porter des symboles religieux, y compris le hijab, dans les lieux publics. À la suite de ces règlements, les femmes musulmanes ont fait des protestations parce que les femmes musulmanes sont obligées de couvrir le aurat. Concernant des grandes émeutes et protestations, on a organisé la conférence de Londres du 4 septembre 2004, participée par 300 délégués de 102 organisations au Royaume-Uni et 35 autres pays. Le résultat est que les femmes musulmanes sont autorisées à porter le hijab en public. Cette date est finalement déterminée par beaucoup de parties comme la Journée mondiale de la solidarité hijab. C'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Kita sadari akan datang masa di mana kita hanya mampu berkeluh dan menyesal, berharap doa dapat memutar waktu. Oh, percayalah waktu masih tersisa, percayalah hanya kita yang bisa beri. Berharap doa dapat
Bukankah akhirnya kita sadari?
Chers auditeurs, c'était la chanson intitulée Nyawa dan Harapan, chantée par Raisa. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Et voici donc Mon Indonésie. Chers amis de l'antenne, nous continuons notre programme avec Mon Indonésie et pour le titre, le ministre de la Communication et de l'Information officialise la numérisation de la frontière à Nunukan. Le ministre de la Communication et de l'Information, Rudiantara, a inauguré la numérisation à la frontière dans la salle des sports de Duikora, à Nunukan, samedi le 31 août. Il a été accompagné, entre autres, du gouverneur de Kalimantan du Nord, Irianto Lambri, et du résident de Nunukan, Asmin Laura Hafid. La veille, le directeur de la radiodiffusion du ministère de la Communication et de l'Information, Geriantika Kurnia, à Nunukan, le nord de Kalimantan, a expliqué que Nunukan avait été choisi par le ministère comme premier programme de numérisation de frontières, car Nunukan ne disposait pas encore d'installation 4G comme dans les régions de Java. Dans son discours, Rudiantara a déclaré que le programme lancé par l'Agence d'accessibilité des télécommunications et de l'information, ou BACTI, du ministère de la Communication et de l'Information, est une manifestation concrète du développement de l'Indonésie à partir de la périphérie. Selon lui, la numérisation à la frontière prend en compte la qualité du numérique, du contenu et de l'infrastructure numérique. Rudiantara expliquait que le programme de numérisation comprenait le programme simulcast ou une diffusion analogique et numérique simultanée à la frontière. Le lancement de ce programme s'est déroulé simultanément à Batam, Jayapura, Nunukan et a été centré sur Nunukan. Le programme permet aux gens d'utiliser la télévision numérique et analogique simultanément. L'utilisation de la télévision numérique devrait permettre d'émettre des émissions de meilleure qualité que la télévision analogique à la fin de la frontière de l'État. Rudiantara a expliqué qu'il y avait deux façons de regarder la télévision numérique, à savoir une nouvelle télévision qui possède déjà un appareil qui capture des émissions numériques et les anciens modèles de télévision qui doivent être équipés d'un appareil appelé set-top box. À cette occasion, trois chaînes de télévision indonésiennes, à savoir TVRI, Metro TV et Transmedia, ont remis gratuitement set-top box aux résidents. Selon Rudiantara, en soumettant set-top box, cela peut être très utile pour les résidents qui disposent d'un ancien modèle de télévision. Il a déclaré qu'à cette époque, les habitants de Nunukan recevaient des émissions de télévision analogique par antenne parabolique, par câble, etc. avec une qualité d'image médiocre. Avec le numérique, Rudiantara espère une meilleure qualité d'image. Serviteur, c'était Mon Indonésie pour ce soir.
terbayang-bayang kau pun datang, meski ku mereka-reka.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson. Vous êtes toujours avec nous. Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Bonsoir, chers auditeurs et chers auditeurs de la Voix d'Indonésie. Nous nous retrouvons dans notre programme favori, le magazine culturel. Cette fois-ci, nous allons vous inviter à visiter le temple Changkuang à Garut. L'histoire de Garut ne peut pas être séparée de la résidence de Limbangan, qui était une ancienne résidence où sa capitale est déplacée à Garut, car elle a été souvent frappée des inondations. L'état de la nature à Garut, qui est toujours aussi beau, fait une destination touristique de cette résidence d'être le pilier de la province de Javaoise. En plus d'avoir une belle destination naturelle, Garut est aussi riche en histoire. Le temple de Changkuang est l'une des histoires que l'on trouve dans cette région. Le temple est l'un des temples hindous qui ont été découverts pour la première fois à Tatar de Sunda, au hameau de Pulo, à Changkuang, à l'est dans le district de Garut, l'ouest de Java. Le temple a été trouvé en 1966 par Harsono et Uka Chandra Sasmita. Le temple, qui est originaire du 8e siècle après Jésus-Christ, a été retrouvé dans un état incomplet et seulement 40% des pierres d'origine du temple ont été utilisées pour reconstruire la forme du temple. Le processus de rénovation du temple a été débuté de 1974 à 1975. Et la reconstruction a été effectuée en 1976, couvrant notamment la structure du corps, du toit et de la statue de Shiva. Elle a également été complétée par un joglo de musée, servant à stocker et à inventorier les objets historiques du patrimoine de toutes les résidences de Garut. La découverte du temple de Changkuang est également une réponse au vide historique entre le royaume de Purnawarman et celui de Pajajaran. Malheureusement, la forme du temple d'origine est inconnue. Cependant, l'enchantement du temple de Changkuang est capable d'attirer des touristes pour le visiter. Chers auditeurs, c'était notre programme Le Magazine Culturel pour ce soir. Merci de votre attention. À demain.
Satu persatu caraku menggoda dia. Dari yang biasa sampai yang luar biasa. Tetap saja dia tak peduli. Bikin aku gigit jari. Maunya aku jadi yang pertama.
Auditeurs, c'était la chanson de Mita intitulée « Jadi yang pertama ». Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia d'Indonésie pour le monde. Pour la rubrique suivante, voici donc « Apprendre l'indonésien ».
Bonsoir chers auditeurs, on se rencontre encore dans le programme radiophonique « Mari Berbahasa Indonesia » où parlons indonésien. Ce soir avec moi, Udri. Mari Berbahasa Indonesia, c'est une émission pour introduire le vocabulaire indonésien et vous guider à se converser en indonésien. Ce soir, on a le sujet intitulé Penggunaan tidak hanya, tetapi juga. Ou en français signifie l'utilisation de mots ne pas que, mais aussi. Chers auditeurs, bonne écoute. Maintenant, je vais vous donner un exemple de conversation. Penggunaan tidak hanya, tetapi juga. En français, signifie l'utilisation de mots ne pas que, mais aussi. La situation est Tony est dans le salon avec Dinda. Ils sont en train de parler des événements passés.
Ketika kecil, aku sering terjatuh. Tidak hanya terjatuh dari sepeda, tapi juga dari pohon. Ibuku suka menangis kalau aku terjatuh.
Wah, ibumu pasti sedih.
Chers auditeurs, d'habitude, après avoir écouté la conversation, je vais vous présenter quelques expressions et vocabulaire reliant au sujet d'aujourd'hui. Penggunaan tidak hanya, tetapi juga. Penggunaan tidak hanya, tetapi juga. En français, l'utilisation des mots ne pas que, mais aussi. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez me répéter. Terjatuh. Terjatuh. En français, tomber. Menangis. Menangis. En français, pleurer. Marah. Marah. En français, être en colère. Lupa. Lupa. En français, oublier. Tidak hanya, tetapi juga. Tidak hanya, tetapi juga. En français, ne pas que, mais aussi. Ketika kecil, aku sering jatuh. Ketika kecil, aku sering jatuh. En français, quand j'étais petit, je tombais souvent. Aku tidak hanya terjatuh dari sepeda, tetapi juga dari pohon. Aku tidak hanya terjatuh dari sepeda, tetapi juga dari pohon. En français, je n'étais pas que tombé du vélo, mais je suis aussi tombé d'un arbre. Ibuku suka menangis kalau aku terjatuh. Ibuku suka menangis kalau aku terjatuh. En français, ma mère pleure souvent si je tombe. Ibumu pasti sedih. Ibumu pasti sedih. En français, ta mère est sûrement triste. Chers auditeurs, dans le dialogue, Tony dit « Aku tidak hanya terjatuh dari pohon, tetapi juga dari sepeda. Aku tidak hanya terjatuh dari pohon, tetapi juga dari sepeda. » Dans la phrase de Tony, il y a une expression « tidak hanya, tetapi juga ». Tidak hanya, tetapi juga. Cette expression est pour relier deux expressions équivalentes. Par exemple, il y a deux expressions. Aku jatuh dari sepeda. Aku jatuh dari sepeda. En français, je tombe d'un vélo. Et aku terjatuh dari pohon. Aku terjatuh dari pohon. En français, je tombe d'un arbre. Ici, on peut combiner ces deux phrases. Aku tidak hanya terjatuh dari sepeda, tetapi juga dari pohon. Aku tidak hanya terjatuh dari sepeda, tetapi juga dari pohon. En français, je ne tombe que d'un vélo, mais je tombe aussi d'un arbre. L'autre exemple, dia tidak hanya cantik, tetapi juga pintar. Dia tidak hanya cantik, tetapi juga pintar. En français, elle n'est pas que jolie, mais elle est aussi intelligente. Et puis dans la phrase, ibuku suka menangis. Ibuku suka menangis. En français, ma mère pleure souvent. Le mot suka, dans cette expression, ne signifie pas aimer. Mais ça signifie plutôt souvent. Et on l'utilise juste dans quelques situations. Par exemple, aku suka lupa mematikan lampu. Aku suka lupa mematikan lampu. En français, j'oublie souvent éteindre les lumières. Atasanku suka marah tanpa alasan. Atasanku suka marah tanpa alasan. En français, mon patron est souvent en colère. Sans aucune raison. Mmh. Chers auditeurs, avant de finir cette émission, pour être plus clair, écoutons encore une fois la conversation.
Ketika kecil, aku sering terjatuh. Tidak hanya terjatuh dari sepeda, tapi juga dari pohon. Ibuku suka menangis kalau aku terjatuh.
Wah, ibumu pasti sedih.
Bon, chers auditeurs, c'était le programme Parlons Indonésien. Nous espérons que ce sera utile pour vous et vous pouvez connaître plus loin l'indonésien. On se rencontre demain avec le sujet différent. Merci beaucoup. Au revoir.
Bisa ku bertahan bersamamu, tapi ku tahu satu hal, ku menyayangi dirimu. Memang tak mudah memilikimu. Semua yang kita alami, yang telah kita jalani, semua telah terukir dan takkan terganti di hati. Tak mau kehilangan, walau berat bersamamu. Masalah hanya cobaan, ku kan terus bersamamu. Memang tak mudah memilikimu, tapi jangan pergi, tetap di sini. Semua yang kita alami dan telah kita jalani, terukir dan takkan terganti. Semua yang kita alami
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était la chanson intitulée « Kita Bisa » chantée par Ran Fit Tulus. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Chers auditeurs, vous allez écouter la chanson s'intitule « Lipang Lipang Dang ». Lipang Lipang Dang contient un message pour un homme dont la main vient de le quitter. L'un des messages est que les hommes doivent être prudents dans la relation amoureuse car beaucoup de femmes peuvent mentir. Malgré tout, cette chanson a un rythme joyeux. La chanson intitulée Lipang Lipang Dang est souvent chantée par des célibataires de Lampung qui s'appellent à Lampung Muli Mekanai. Bon, chers auditeurs, la suite, voici Lipang Lipang Dang chantée par Musli Harni. Bonne écoute!
Chers auditeurs, c'était l'émission Côté des langues françaises pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33-25 kHz et sur le site web www.voice.id. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.